Vous écoutez Kwe Bonjour avec Alexis Wawanoloat et Sophie-Claude Miller.
Et de retour maintenant, on a un petit changement d'invité à la dernière minute pour nous parler du projet de l'expédition des Premières Nations. On va recevoir la responsable des communications, Joyce Dominique. Kwai, Madame Dominique.
Quoi, monsieur, à qui ai-je l'honneur?
Alexis Wawanoloat et Sophie-Claude Miller.
OK.
Bon. Ah,
bonjour, Sophie-Claude.
Bonjour, Joyce.
Excusez de vous tutoyer, Sophie-Claude.
Ah non, mais ça va.
Connais. Ben oui, c'est correct.
On est entre nous autres.
Oui, oui, on est entre nous. On peut se tutoyer, aucun problème. Ça fait toujours plaisir de parler. Donc, l'expédition Première Nation, c'est la deuxième édition. Et là, en ce moment, on est samedi, il reste une semaine. Comment se déroule l'expédition à date cette année, Joyce?
Ça va bien. C'est sûr que les premiers jours, il y avait des retards d'arrivée, sur les heures d'arrivée. Il y a toujours des petits incidents qui arrivent. Fait que le but, c'est toujours d'arriver en même temps, puis aussi on ne laisse jamais quelqu'un en arrière. Fait qu'on attend toujours la personne qui a un petit pépin, la personne qui a un accident, la personne. On l'attend toujours en gang. Fait que c'est jamais. On ne voit pas d'expéditions arriver un par un, mais c'est toujours en troupeau. Là.
Puis, il y a combien de participants en tout cette année? Combien de motoneiges?
56 motoneigistes.
56?
À part l'équipe de tournage Terre en vue, il y a aussi, on rajoute associé, Air Medic.
OK.
Air Medic est un des principaux commanditaires majeurs de l'expédition des Premières Nations.
Puis c'est super important pour votre sécurité. Donc, Air Medic, on le rappelle, sont équipés d'avions et d'hélicoptères pour pouvoir transporter des gens rapidement en cas d'accident.
Oui.
Il y a combien de villes au total? Parce que là, je sais que l'an passé, c'était vraiment une plus grosse expédition. Cette année, il y a moins de destinations. Le trajet est plus court un peu.
Oui, le trajet est plus court un peu. Puis on fait la visite dans moitié-moitié, en fait, dans sept villes-villages, sept communautés autochtones cette année. L'année passée, comparativement, ils sont sur des routes fédérées. Mais comme disent, l'année passée, c'était vraiment du hors-piste. Là, ils sont sur des routes fédérées, comme je viens de le mentionner. Puis, il y a autant de difficultés, puis autant de dangers, puis autant de challenges pour les personnes qui sont habituées à faire du hors-piste, puis qui sont habituées à faire, je dirais, entre parenthèses, qui doivent donner les. Pas délinquance, ça, mais...
qui sortent des sentiers battus?
Qui sortent des sentiers battus, ça veut dire ça. Parce que les autres, ben, tu sais, sont pas habitués. Il y en a qui me disent, comme nos chasseurs qui vont faire, qui vont aller à la perdrix blanche, pas de casque, mais de porter un casque toute la journée, c'est difficile pour eux autres. Surtout, il y en a comme celle d'hier, la route d'hier, elle m'expliquait, même les femmes qui sont habituées à faire du skido, que cette route-là, c'était trop endormant. C'était trop endormant. Et puis, ça demandait beaucoup, beaucoup de concentration pour pas justement faire un faux mouvement, pour pas percuter soit la personne en avant ou en arrière ou à côté.
OK, puis ça, c'est parce que le chemin est comme trop droit, trop linéaire, donc il n'y a pas ça fait comme un peu quand on fait de l'autoroute puis qu'on a un grand chemin droit devant nous, c'est ça?
Oui.
OK,
oui.
OK.
Elles disent que les femmes, parce qu'il y a 16 femmes, elles disent que préférées, parce qu'il y en a une en plus, c'est la première fois, elles disent « je préfère conduire dans une route sinueuse, avec des bosses. Il y a beaucoup de tournants que sur une route qui est trop facile. »
Donc, peut-être que ça va influencer votre itinéraire pour l'an prochain. Donc, quand vous allez dans les communautés, est-ce que les communautés vous accueillent? Est-ce qu'ils font des cérémonies? Est-ce qu'ils font quelque chose de spécial?
Pas juste dans les communautés, dans les villes aussi. Il y a toujours un accueil, oui, dans les villes aussi. Il y a comme à Chibougamau. Il y a, là, nous arrivons de Lebel de.
Lebel sur
C'est
le
toujours.
Quévillon.
Oui, Lebel sur le Quévillon. Mais qu'il y a toujours un accueil qui nous est fait. Il y a toujours une cérémonie d'arrivée. Il y a toujours un repas qui nous est servi. Il y a des cérémonies faites par notre mouchoum Richard Mau. Puis parfois, il y a un ou un aîné de la communauté qui le fait. Il y a toujours un accueil chaleureux qui se fait par où nous sommes.
Puis, dans le fond, parce que j'ai vu comme dans les communiqués de presse qu'il y avait aussi des cérémonies de feu sacré. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour nos auditeurs qui savent pas c'est quoi une cérémonie du feu sacré?
Une cérémonie du feu sacré qui se fait, c'est souvent par un ou une aînée de la communauté dans lequel on donne du tabac à tous les participants et même les personnes qui font autour de la main gauche. On prend toujours le tabac de la main gauche dans lequel tu mets ta prière, ta propre prière ou ton souhait. Une fois à la fin, on dépose nos prières dans le feu. On ne jette pas le tabac. On dit que le vrai terme, c'est de le déposer, puis c'est d'envoyer ta prière à l'univers, au créateur, à Dieu. Appelle-le comme tu veux. Tu peux l'appeler à l'âge que tu veux. Mais c'est tant que c'est à un être suprême.
Oui, ça c'est propre à chacun.
C'est propre à chacun. Puis souvent, comme je disais, c'est un ou une aînée de la communauté qui fait la célébration. La célébration qui procède à la célébration de la cérémonie, là.
Ah, c'est intéressant, merci.
C'est toute une expédition, c'est tout un défi pour les participants. C'est quoi la
Oui.
mission de l'expédition?
La mission de l'expédition, c'est de promouvoir la réconciliation vers la guérison. C'est pour ça que c'est important de faire une cérémonie à chaque place, le matin et le soir avant de partir. Premièrement, de se réconcilier avec soi-même, de se réconcilier avec les autres, de se réconcilier avec les allochtones, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même homogène, de se réconcilier pour les hommes, de se réconcilier avec la femme, pour les femmes de se réconcilier avec les hommes. S'il y a des enfants autour, ben, c'est de se réconcilier avec les enfants et aussi son enfant intérieur à soi, et qui nous amène à la guérison.
Puis, je sais que l'an dernier aussi, le but de l'expédition, c'est de rendre hommage. Dans le fond, il y a plusieurs causes là, qui nous touchent tous, les Autochtones. On parle aux enfants victimes des pensionnats pour Indiens, les femmes autochtones disparues et assassinées, Joyce Echaquan, bien sûr, et tous les enfants, dans le fond, qui ont été enlevés de leur famille à leur naissance. C'est bien ça?
C'est bien cela.
Dans la sélection, parce qu'on voit aussi qu'il y a des non-autochtones qui participent, comme vous le dites, là, c'est quand même dans le but de faire une certaine réconciliation avec nos voisins québécois. Est-ce que vous avez eu plusieurs candidatures pour participer à ça? Est-ce que vous faites une sélection ou si tout le monde qui veut venir est accepté? Comment on procède si on voudrait s'impliquer?
De ce que je sais sur la sélection, bon, et de un, c'était moitié-moitié en partant. Moitié autochtone, moitié allochtone. Ensuite, il fallait s'inscrire sur le site, mais les inscriptions, là, ça s'est fait tellement vite, là, que je pense que c'était plein en même pas une heure. Ensuite, Christian, qui est le fondateur d'Expédition de Première Nation, qui est maintenant coordonnateur de l'événement, avec ses acolytes, ont procédé à des entrevues. Puis une des questions qui était posée, c'est pourquoi tu veux participer? Pourquoi tu veux le faire?
Oui.
Parce que de plus en plus je parle aux participants, autant autochtones qu'allochtones, et c'est dans le fond, en même temps, on fait une thérapie de soi. Parce que on leur demande, quand vous êtes seul. On est en game. Ils sont en game, mais ils sont en même temps seuls avec eux-mêmes, là, en dessous de leur casque. Là. Mm. Fait, prenez le temps là, de faire le petit voyage de 12 pouces. Là. C'est sûr que les allochtones ne comprenaient pas ça au début. Hey, c'est quoi ça? Il dit, entre ta tête et ton cœur, il y a des 12 pouces de distance. Il dit, mais c'est le plus long puis le plus beau voyage que tu peux faire. Parce qu'ils vivent beaucoup d'émotions aussi, là. Ils vivent des découvertes, ils vivent de la colère, ils vivent des frustrations, ils vivent de la joie, ils vivent de l'ennui. Il y en a même là-dedans qui se disaient dur comme fer puis qui n'avaient jamais pleuré. Ils font du skidoo. Ils ont fait du skidoo toute leur vie, mais pas ce genre de ride-là. Ils disent, ouais, crois-le comme faire. Ils disent, j'ai versé quelques larmes.
Oui, parce que le fait aussi d'être en proximité avec des Autochtones, parce qu'on rappelle, là, c'est quand même 3250 kilomètres, 16 villes et communautés, donc c'est quand même plusieurs jours. Là, donc, il y a une proximité, il y a des liens qui se créent, forcément, c'est indéniable.
Oui, oui, oui. OK. Puis, il y en a là-dedans là, qui n'avaient jamais parlé à un Autochtone.
Ah oui. Plusieurs ouais. Ou juste quelques-uns?
Quelques-uns qui n'avaient jamais... Tout ce qu'ils savaient des Autochtones, c'est tout ce qu'ils attendaient de la télévision. Dans les nouvelles.
Pas forcément ce qui est le plus positif qui retient l'attention des médias habituellement.
Non, non, non.
Ouais.
C'est ça, puis il y avait des œillets. Ils disaient, mais vous êtes un peu merveilleux.
C'est des belles occasions, ça, là.
Oui.
Le départ s'est fait le 27 janvier, c'était un samedi, puis c'était à Pessamit, sur la Côte-Nord. Oui. Donc, tout le monde partait de là. Racontez-moi comment se déroule une journée habituellement. On part, ça commence comment, puis ça commence à quelle heure, puis ça finit à quelle heure? Comment ça se déroule une journée, rapidement?
La plupart des journées, ils commencent à 6 heures du matin. Puis il y a notre fameux Patrick Brunette, on l'appelle Pat Patrouille, là, qui crie... Quoi? Lui, là, ça réveille le monde. OK? Là, après ça, on plie. La journée, le matin, c'est que là, on plie nos bagages. On remplit nos bagages. Après ça, c'est le déjeuner. Après ça, avant le déjeuner, ils commencent à s'habiller. Avant de partir, il y a toujours une cérémonie qui se fait. Le départ se fait. Ensuite, il y a le parcours. En arrivant, il y a toujours un accueil qui se fait. Il y a toujours, à chaque place, il y a un accueil qui se fait. Il y a toujours, ensuite, il y a la salutation protocolaire, le souper. On déplie bagages, on réinstalle notre lit, on s'en va prendre nos douches, tout le monde. Des fois, ça finit tard. C'est comme la fois où ils sont arrivés deux heures plus tard. Des fois, les journées sont très longues et qui ont nécessairement pas le temps de faire des entrevues ou ben ils ont à peine le temps de se téléphoner, de se parler. C'est comme ça les journées.
Ça doit passer vraiment vite. Oui, pardon, vas-y, Alexis.
Oui, je sais que Carole Dubé, le conjoint de Jesse Chacoan, est encore là avec vous pour une deuxième année. Hein?
Non, 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 non. Non, il a donné ses explications, puis j'étais désistée il y a à peu près 2 ou 3 semaines.
OK.
Il y a quand même, on le sait que M. Carole Dubé a plusieurs enfants.
Mmh. Oui, bien c'est sûr que ça en fait pas mal à s'occuper. Hein.
Oui.
Peut-être quand les enfants seront plus grands, ils pourront participer à l'expédition avec chacun leur skidoo.
Oui, oui, oui. Mais cette année, il y a aussi un changement majeur. Hein, un changement majeur, oui. C'est que la température est pas très intense. Il n'y a pas beaucoup de neige.
Ben, c'est ça.
Il n'y a pas beaucoup de neige.
On ressent le réchauffement. Vous êtes aux premières loges pour voir le réchauffement, les effets du réchauffement climatique dans une expédition comme ça.
Oui, parce qu'ils n'ont pas pu traverser normalement. La première chose, ils auraient dû traverser le lac Saint-Jean, mais au nom qu'ils sortent, ils n'ont pas pris le risque de traverser le lac Saint-Jean. Il y a aussi, en s'en allant vers Chibougamau, il y a quelques lacs qui n'étaient pas encore gelés, là, qui normalement sont gelés à ce temps-ci de l'année. Ça fait des détours, des fois, puis ça crée des retards.
Mais non, certainement, je comprends. Moi, je viens de Waswanipi, donc entre Lebel-sur-le-Quevillon puis Chibougamau, c'est mon hood, comme on dit. Donc oui, normalement, l'eau est gelée, en effet. Je suis vraiment d'accord avec ça. Joyce Dominique, c'était vraiment un grand plaisir de vous avoir pour l'expédition. On souhaite le meilleur à tout le monde pour les 7 jours qui restent.
On souhaite un peu de froid. Un peu de froid pour que les lacs gèlent.
Oui.
Donc, on... Ouais.
On se dirige vers Pikogan. Là, il commence à pleuvoir un peu.
Et... Donc, on espère que ce ne sera pas trop verglaçant pour vous. On le rappelle, après, vous allez à Pikogan, comme vous le dites, Rouyn-Noranda, Témiscamingue, Fort Coulonges, Maniwaki, Saint-Michel-des-Saints, Latuc et pour terminer, à Québec, Wendake, le 10 février. Merci beaucoup.
En fait, on va attendre, ouais, on va juste, on va, il va y avoir une petite cérémonie à Wendake, dans la communauté de Wendake. Il va durer environ 30 minutes, 1 heure. Les Wendat vont faire la cérémonie. Ensuite, on va se diriger vers Saint-Tite-des-Caps, où c'est le centre Mamouk avec le Pouamoun-Meshkenou qui vont nous accueillir là-bas.
Ah, oh, c'est génial. C'est vraiment inspirant. Merci beaucoup pour votre entrevue. Merci beaucoup pour votre temps. On vous souhaite une excellente fin d'expédition. À bientôt, Joyce.
Merci. À bientôt.